Bonjour Philippe Nonni.
Bonjour Philippe Subercase.
Et bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Diego Arabal.
Voilà, on a l'impression qu'on... Bonjour les Dupont.
Un peu, oui.
C'est Dupont et Dupont. Avec un D et un T.
Voilà, avec un D et un T. Nous, il y a un L et deux P. Alors, ça n'a pas changé pour vous.
Vous savez comment on reconnaît les Dupont et Dupont? Il y en a un qui a la moustache qui tombe. De mémoire, c'est Dupont avec un D. Il y en a un qui a la moustache qui se relève. C'est Dupont avec un T.
D'accord.
Regarderai dans Tintin. Parce qu'un jour, je me suis dit comment on les distingue. Ouais.
D'accord. Eh bien... Ah oui, j'ai jamais fait attention. Mais vous êtes un puits de science, mon cher Philippe. Reconnaître les Dupont et Dupont, ça c'est... En même temps, on ne le sait pas, on passe à côté de sa vie.
Exactement, je trouve. C'est toujours intéressant. Allez, ces petits détails.
Cette semaine, mon cher Philippe, vous avez décidé de nous faire une... Vous avez fait une petite sélection de livres.
Exactement, que j'ai surnommé, donc, après le quartier libre, il y a quelques semaines de ça, de Lucie Plessala, de la librairie Bleu et Or. Là, ça va être des livres et encore des livres. Le premier, dans un monde où les réseaux sociaux véhiculent parfois des infox délirantes, il est bon de se pencher sur des livres qui posent le débat et invitent à la réflexion. Pierre-André Taguieff, Les théories du complot, aux éditions Que sais-je. Voilà un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant, puisque nous sommes aujourd'hui dans une époque où, vous le savez, les jeunes... s'informe énormément par le biais des réseaux sociaux. On sait qu'on peut y trouver le pire et le meilleur. Eh bien, le grand avantage, effectivement, de ce livre, c'est qu'il explique un peu ce qu'est une théorie du complot. Alors, la maison d'édition Que sais-je, on n'en a jamais parlé. De mémoire, on n'a jamais fait un livre donc avec les éditions Que sais-je depuis 13 ans. L'avantage, c'est qu'elle propose des livres réflexifs qui permettent de mieux appréhender le monde qui nous entoure. Et bien, dans Un jour, un livre en auteur, on se propose effectivement d'en parler. Et je vais lire la quatrième de couverture du livre « Les théories du complot ». Par théorie du complot, on désigne des explications douteuses ou fausses qui s'opposent aux thèses « officielles », entre guillemets « officielles », et mettent en scène un ou plusieurs groupes agissant en secret pour réaliser un projet de domination ou d'exploitation. Les conspirateurs fantasmés sont supposés être à l'origine de tous nos maux. Le moteur de ces raisonnements, l'insatisfaction cognitive face à des événements traumatisants. C'est de cette frustration porteuse de suspicion que dérive le discours complotiste contemporain qui met l'accent sur le doute. Mais les réponses données, factuellement fausses, constituent de nouveaux dogmes véhiculés par les réseaux sociaux. Pierre-André Taguieff fait l'hypothèse que le complotisme répond à une demande de sens et de cohérence. L'ennemi invisible et diabolique explique tous les malheurs des hommes. En cela, les récits complotistes réenchantent le monde, fût-ce pour le peupler de démons. Mais il les alimente en même temps des accusations mensongères. Comment dissiper de telles illusions? Alors je précise, hein, Pierre-André Taguieff, hein, il est philosophe, il est politiste et historien des idées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Hitler, Les protocoles des sages de Sion, Mein Kampf, Le nouvel âge de la bêtise, et... l'antisémitisme. Donc, il a publié l'eugénisme aussi. Donc, c'est une personne, effectivement, qui a permis de faire évoluer tout cela. Diego Arabal, une question. Vous êtes un ancien professeur d'université qui a enseigné les sciences sociales. Pour vous, c'est quoi une théorie du complot?
Je pense que la définition qu'a donnée Pierre-André Taguieff est très bonne, parce que effectivement, une théorie du complot, c'est... une explication facile et à la limite évidente d'une situation qui, elle, est beaucoup plus complexe et qui souvent est beaucoup plus cachée. C'est-à-dire que dans la théorie du complot, c'est des personnes qui se cachent pour faire le complot, mais dans la réalité, en termes scientifiques, c'est la connaissance qui nous est cachée et qui nécessite un travail pour aller l'acquérir. Le bon sens est certainement la chose la plus éloignée d'une pensée scientifique. Le bon sens, c'est toujours travailler sur une évidence. La pensée scientifique, c'est de dépasser cette évidence pour trouver des causes beaucoup plus profondes. Et il me semble que la définition qu'en donne Pierre-André Taguieff est vraiment une très bonne définition parce qu'elle centre bien sur le besoin d'explication et aussi le désarroi par rapport à un manque d'outils intellectuels pour répondre à ces questions. En fait, le informez-vous, qui est l'élément de base de ceux qui distribuent les théories du complotisme, cette idée de s'informer est une idée qui part d'un bon sentiment, mis à part que s'informer nécessite un travail d'élaboration et un travail d'aller chercher des choses qui ne sont pas évidentes a priori.
Alors, je vais lire juste le début de l'introduction, justement. C'est un fait écrit l'auteur Pierre-André Taguieff, j'y arrive. C'est un fait que les théories du complot ont mauvaise réputation. Elles sont en général jugées irrationnelles par les philosophes, les historiens et les spécialistes des sciences sociales qui, jusque dans les années 1990, ne les analysaient qu'occasionnellement. Elles sont rejetées dans l'empire du faux et du délire et, à ce titre, ont longtemps été considérées comme indignes de faire l'objet d'analyses approfondies. Elles sont aussi dénoncées comme dangereuses, eu égard à leurs effets présumés dans le champ politique. Elles sont accusées d'alimenter la méfiance à l'égard des institutions et des élus, ainsi qu'à l'égard des informations scientifiques et médicales, donc par exemple d'entraver les nécessaires campagnes de vaccination, on l'a vu notamment pendant, pendant la période du Covid. Mais tous les dirigeants des régimes autoritaires libéraux recourent aux théories du complot de Vladimir Poutine et Viktor Orban à Recep Tayyip Erdogan. On accuse aussi les théories du complot de favoriser les attentats terroristes en désignant aux extrémistes des cibles diabolisées. On a pu établir qu'elles avaient joué un rôle dans les motivations des djihadistes et des suprémacistes blancs qui sont passés à l'acte. Voilà pour ce premier livre que je voulais vous présenter, les théories du complot. Vraiment, par rapport à l'actualité, lisez-le. Alors, vous savez que sur Présence, hein, on est pour la lecture. Le que sais-je, on est à 10 euros. On a parlé il y a quelques semaines de ça avec Lucie Plessala, vous savez, du prix des ouvrages. Diego Arrabal.
Oui, ce que je voulais dire, mais vous pouvez terminer votre phrase. Je voudrais dire deux mots sur les éditions...
Que sais-je, allez-y.
Alors, en fait, les éditions Que sais-je, c'est des éditions dont l'objet est de présenter une synthèse vulgarisée d'un domaine de connaissances. C'est une collection qui date de la fin de la guerre. Elle démarre en 1946 ou 1947. C'est une collection dans laquelle des spécialistes d'un domaine considérable ou considéré d'un certain domaine scientifique doivent présenter leur domaine ou un champ de recherche la façon la plus accessible possible en un nombre de pages relativement restreint, avec comme objectif de permettre à des personnes qui ne sont pas spécialistes du domaine de pouvoir avoir les éléments de base pour pouvoir juger de ce domaine-là. Ça, c'est l'objet de cette collection dès l'origine. Et donc, c'est une collection de synthèses écrite par des points, entre guillemets, pointures de chacun des domaines correspondants. Donc, il y en a sur les probabilités, il y en a sur la physique nucléaire, il y en a sur les sciences sociales, etc. Vous avez, il y a en gros, à l'heure actuelle, je crois qu'on doit être à 2000 ou 2500 numéros.
Et j'ai trouvé, moi, là, très intéressant. Alors, j'en parle aussi parce que, bon, on parlait du prix hein, il y a quelques semaines, on est à 10 euros. On pourrait trouver des livres comme ça qui seraient à 20 ou 25 euros, qui rebuteraient. Hein. On parlait il y a quelques semaines de cela, donc de problèmes de pouvoir d'achat. Là, à 10 euros, ça permet effectivement de pouvoir continuer à se cultiver, mais avec un prix effectivement qui reste raisonnable effectivement pour les auditeurs et les auditrices. D'où le choix effectivement de Présence de parler de cet ouvrage. Second ouvrage, dans un pays comme le nôtre, où les animaux de compagnie partagent nos vies au point de parfois les enchanter, il est réjouissant de lire ce roman écrit dans une langue flamboyante et qui possède un titre authentiquement singulier, son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four, aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, vous l'aurez compris, on parle du chien après son retour de promenade sous une pluie fine qui n'a pas senti l'odeur d'un chien dans une maison une fois qu'il a été sous la pluie. On pourrait penser que c'est une odeur qui est désagréable. Eh bien, Cédric Sapin de Four, donc c'était la rentrée littéraire 2024, écrit un livre qui, a priori, est parti pour passer inaperçu. Il va en vendre 650 000 exemplaires. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, hein, Philippe Subercaz, où c'est le 1% dont vous parliez. Hein, des... Donc, vous voyez, on est largement au-delà de 80 exemplaires. 650 000 versus 80, quoi, vous voyez. On est sur un livre qui vraiment a parlé aux gens, qui a été, comme le disait Lucie Plessala il y a quelques semaines, quand on en a parlé avec elle, donc notre libraire partenaire, porté par le bouche à oreille. Voilà. Et c'est vraiment un livre superbe, magnifique. Je vais lire la quatrième de couverture et je l'ai vraiment trouvé formidable du début jusqu'à la fin. Quatrième de couverture, donc, de son odeur après la pluie. C'est une histoire d'amour, de vie et de mort entre un homme et son bouvier bernois, Ubac, qui, en même temps qu'il grandit, prend une place toujours plus centrale dans le quotidien du narrateur. Certaines pages, Ubac puis le chien. Les suivantes, on oublie qu'il en est un. Et l'on observe ces deux êtres s'aimant, tout simplement. Un lieu mystérieux qui, se passant de mots, nous tient en haleine. Une existence inquiète et rieuse, intense, où tout va plus vite et qu'il s'agit de retenir. Et l'inéluctable séparation dont on ne voudrait pas, mais qui lui donne toute sa substance. Reste ce fichu manque, ces griffes que l'on croit entendre sur le plancher et cette odeur, malgré la pluie, a jamais disparu. Nul besoin d'être converti pour partager ces 13 années d'intimité. Cette histoire est universelle. Lisez ce livre, c'est un voyage d'évasion. Il est à 8,90 €, il est en poche. C'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné, toujours effectivement pour ce que l'on disait tout à l'heure. Vous voyez que si on prend le livre précédent et celui-là, ça fait 18,90 €. On est en dessous d'un livre que l'on va trouver aujourd'hui à 22 ou à 25 €. Troisième livre que je voulais recommander, que j'ai trouvé absolument formidable, c'est le livre donc d'un père et son fils. C'est une histoire universelle, me direz-vous. Donc on en a eu beaucoup, des livres comme celui-là, hein, sauf que celui-ci, il y a vraiment un aspect particulier. C'est un père donc, qui est divorcé avec sa femme et qui doit recueillir son fils qui a tenté de se suicider et qui ne parle pas. Ça s'appelle « Mon garçon » de Xavier Demoulins. C'est aux éditions J'ai lu. Alors, toujours pareil, hein. Pourquoi on en parle ? On est en poche, 7,10 €. Vous voyez, on n'est pas sur une sélection effectivement de livres qui est relativement cher, mais qui permet, avec trois livres, de pouvoir avoir le prix donc, d'un livre aujourd'hui et tout le temps d'inciter nos auditeurs et nos auditrices à lire. C'est aussi le but de cette édition, parce que lire, c'est aussi voyager, quoi. Voilà la quatrième de couve qu'en fait l'auteur. Et déjà, la quatrième de couve m'a convaincu quand je l'ai lu. Mon garçon, je dois te parler de Carla, de l'année de mes 15 ans. Car avant toi, je me suis retrouvé à l'arrière de la voiture de mon père avec cette sensation de cœur en lambeaux et cette envie folle d'en finir. Au cours de sa vie, on croit souvent mourir à cause des autres. Et un jour, on prend conscience que les autres n'ont rien à voir avec ça. Tu verras. Voilà, cette quatrième de couve, elle m'a vraiment énormément touché. C'est un livre absolument magnifique, très bien écrit, où en fait, le père effectivement raconte comment à un moment donné, il essaye de retisser un lien avec son fils en se reportant sur sa propre enfance, sur sa propre adolescence, où lui aussi eh bien, se retrouve effectivement avec une rupture amoureuse, comme son fils, et a envie à un moment donné que tout finisse. Voilà. Et c'est un livre vraiment magnifique. Moi, ces trois livres-là que je vous présente, c'est trois livres qui m'ont énormément touché, où j'ai pris énormément de plaisir à le lire. On sait que quand on regarde l'actualité aujourd'hui, on a parfois un peu de mal, effectivement, donc à décrocher, à se dire c'est triste tout. Là, quand on lit cette histoire, elle est lumineuse. La fin est très très belle. La fin est vraiment magnifique. Je l'ai relu plusieurs fois, la fin, tellement je trouvais que les mots étaient beaux. Et je me disais, mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres pages. Voilà. Donc lisez-le. C'est vraiment un livre absolument, absolument extraordinaire. Je vais vous lire juste le début du chapitre 5. Florence n'a pris aucun de mes appels. Passé l'affolement, j'ai bouclé ma valise et tenté de retrouver mon calme, ordonner mes pensées, essayer de refaire le puzzle. Accident, Marcus, hôpital. Elle a fini par me rappeler et m'a raconté. Le scooter, la voiture, la priorité volée au carrefour, l'impact, cette violence, la police, les pompiers, le téléphone qui sonne à 2h du matin, la peur qui crève la nuit. La descente au bloc, l'opération en urgence, la jambe en morceaux, la crainte de ne pas pouvoir la sauver. Les élucubrations, l'ombre du doute affreux. Elle a marqué une pause. J'ai essayé de la percer en vain. La mère de Florence aussi m'a téléphoné. Un linge doux m'a entouré de chaleur. Certaines belles familles ne cessent pas le combat avant d'en avoir reçu l'ordre. Et même après, continuent à s'acharner sur la fin d'un amour. La grand-mère de Marcus est sortie de la guerre du mutisme pour me parler de mon fils et de sa vie en jeu. Le téléphone a sonné de nouveau. C'était moins grave qu'on l'imaginait. La jambe de Marcus était sauvée. Il remarchera normalement. Nous avons eu une chance folle. La voix de Florence chantait le soulagement d'une mère et presque la paix d'une ex-femme. J'ai même entendu son rire à la fin et sa bouche en un murmure. Je t'en... Salut, Auré Pussy, je t'embrasse. Voilà. C'est un livre vraiment admirable où on voit comment des gens, effectivement, sont amenés à pouvoir se reparler. Donc, moi, vraiment, je vous recommande ces trois livres. Hein. Xavier dire... de Moulins.
Oui, Xavier de Moulins est journaliste.
Et journaliste. Voilà. Donc, il était écrivain et journaliste. Il a publié plusieurs livres, dont Le Petit Chat est mort. Hein, donc disponible chez J'ai lu. Voilà, vraiment un livre bouleversant, beau. Mon garçon, Xavier de Moulins, donc publié aux éditions J'ai lu. Cédric Sapin de Four, Son odeur après la pluie, donc en livre de poche, qui là vient de sortir un livre donc qui fait partie de la rentrée littéraire 2025. En fait, ils sont partis en Italie avec sa femme. Ils ont fait du parapente, merci. Ils ont fait du parapente et en fait, le parapente de sa femme, à un moment donné, a décroché. Elle s'est retrouvée au sol avec 22 vertèbres. 6 mois à maigrir et à ne plus reconnaître la femme qu'il aimait. Et surtout, sa femme qui lui dit « Je ne me souviens plus de notre rencontre et de notre première fois ». Et donc, lui écrit ce livre pour tenter de reconstruire effectivement ses faits. C'est un livre aussi superbe, effectivement, que Son odeur après la pluie. C'est vraiment un écrivain qui compte. Je pense, on verra si je me trompe, qu'il se retrouvera, à mon avis, dans les personnes qui seront sélectionnées pour les prix littéraires de novembre pour ce livre qu'il a sorti, qu'on présentera pareil hein, quand il sera sorti donc en poche. Hein, ça arrive tout le temps, vous savez, très rapidement, environ 6 mois à 9 mois après, voilà, où le livre en fait a une deuxième vie et donc peut être disponible pour des personnes qui, effectivement, n'ont pas forcément les moyens de l'acheter. Et le premier livre, qui est un livre réflexif, de Pierre André Taguieff, Les théories du complot aux éditions Que sais-je. Vraiment, je recommande ce livre aux auditeurs, aux auditrices. Si vous voulez décrypter un peu, eh bien, effectivement, ces théories du complot, pourquoi elles ont lieu ? Quel est le travail de recherche qui a été fait ? D'où ça vient ? Quand est-ce qu'on a eu les premières théories complotistes ? Pourquoi on les utilise ? Voilà. Et ça permet ensuite, quand on lit une information sur laquelle on a des doutes, d'avoir des clés pour mieux comprendre le réel. Et je trouve que là, l'émission que l'on fait, Un jour un livre, un auteur dans présence, on a aussi cette fonction-là, cette responsabilité-là, effectivement, d'essayer de présenter des livres qui vont permettre aux gens à la fois de rêver, de voyager, mais aussi de réfléchir.
C'est important, effectivement. Merci beaucoup, Philippe Lolli. Et puis également à Diego Rabal qui a écouté religieusement et qui est toujours là pour nous donner
sur les théories du complot, voyez,
sur des définitions bien exactes. Merci beaucoup à tous les deux. Puis on se retrouve la semaine prochaine puisque je crois que vous allez refaire une section de trois autres.
Exactement, tout à fait.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.